Le boss du jour dans PlaySmart a 25 ans, même plus, d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo. Et surtout, il gère, en bon père de famille, une entreprise de près de 200 salariés, ce qui n'est pas un mince exploit dans une industrie aussi compétitive que le jeu vidéo. Romain De Vaubert de Genlis, bonjour.
Bonjour.
Patron, cofondateur de Amplitude Studio, donc un studio référence pour les jeux stratégie, parfois on dit 4X, on va y revenir tout à l'heure. Surtout pour les gens éventuellement qui ne vous connaissent pas, on va planter le décor, c'est qu'en 2025, vous recevez le Pégase de personnalité de l'année. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous êtes monté sur scène et qu'on vous a donné la petite statuette ?
Alors j'étais quand même très stressé, je suis pas forcément habitué voilà, à ce genre d'honneur, et la salle était un petit peu chauffée, il y a la ministre qui arrive, il y a des petits sifflements, alors, je me dis voilà, je vais passer
c'est
après. C'est
une salle assez voilà. Bonne en termes d'acoustique d'ailleurs, pour l'ambiance.
Ouais. Donc j'avais préparé un petit speech très sobre et très académique, voilà. Et puis quand je vois la salle, je me dis bon, c'est pas possible, je déchire ça, on va dire des bêtises,
on va faire plus court,
on va s'amuser, et voilà, donc c'était du coup très bien, mais sur le moment, oui, extrêmement impressionné.
Donc ça ressemblait à une impro un peu comme le discours de Levan Sargevilladze cette année, c'est ça, sans texte préécrit.
Levan, il fait des très très beaux et très longs discours.
Votre carrière, elle commence à la fin du siècle dernier. Dit comme ça, ça paraît, ça fait de vous un dinosaure, mais en fait, ça fait 27 ans que vous êtes lancé en 98. Souvent, on mentionne votre présence dans le studio suédois DICE,
oui.
Créateur de Battlefield.
Oui.
Mais il y a une première expérience avant que vous m'indiquiez hors antenne, c'est que vous avez tenté quand même directement de créer votre boîte.
Oui, parce que moi j'ai toujours voulu faire des jeux de stratégie, en 98 pour démarrer un jeu vidéo c'était pas très simple. Surtout moi je voulais être designer de jeux vidéo, c'était pas vu comme étant un métier à l'époque. Quand on arrivait dans une boîte de jeux vidéo, on disait non mais tu es programmeur ou tu es artiste, et puis un programmeur sera designer ou un artiste sera designer, mais voilà, c'est pas un métier. Je vais créer ma propre boîte et je vais prouver à tout le monde que c'est un métier, et donc j'étais étudiant, j'avais pas fini encore, et avec d'autres étudiants on avait créé Synesthetics, qui était une boîte de jeux stratégie où on a créé l'ancêtre d'un de mes jeux qu'on referai plus tard, qui est Endless Legend. Et on commençait à travailler avec Cryo. Voilà, donc c'était des moments magnifiques, mais on aurait été incapable de finir le jeu.
C'est un métier et voilà. Ça nécessite aussi des échecs.
Donc premier échec, avant de comprendre qu'il valait mieux que j'aille travailler pour quelqu'un d'autre et apprendre un peu ce métier.
D'ailleurs, peut-être avant de partir sur cette première expérience, jeu de stratégie, très tôt, vous vouliez faire ça. Aussi loin que vous pouvez remonter en arrière, c'est quoi le premier jeu vidéo qui vous a mis une claque ? Le premier jeu vidéo dont vous vous souvenez en tant qu'enfant ?
Je crois que je vais être sur la Atari VCS 2600, donc on était sur des Outlaw, je crois. Alors les noms étaient assez simples, je crois qu'il y avait peut-être War, c'était des trucs un peu.
Donc c'est
des cubes qui se baladaient, qui se tiraient dessus. Mais c'est vrai que l'interaction avec l'écran, je trouvais ça génial. En plus, on pouvait y jouer à plusieurs en ce moment dans ces jeux-là.
Quand je vois la gamme des jeux donc d'Amplitude, je me suis demandé si vous n'aviez pas été aussi un amoureux de Civilization et des jeux de Civilization.
Oui, alors ça, voilà. Les plus anciens, c'était les jeux sur Atari. Effectivement, on va arriver un peu plus tard.
C'est années 90, Sid Meier.
Voilà, on a sur PC, donc j'étais passé par les Atari, les Amiga, voilà, donc pour des jeux un peu plus arcade. Effectivement, j'ai découvert Civilization. Sid Meier, je ne savais pas, mais j'étais déjà fan de Sid Meier parce que j'avais joué à des jeux, dont un jeu qui s'appelait Pirate. Je l'avais complètement retourné quand j'étais enfant. J'y jouais sur cassette, parce qu'on jouait sur cassette.
Oui, là, on parle d'une époque que les plus jeunes n'imaginent même pas.
Voilà, et parfois, quand la cassette ne marchait pas très bien, on allait à la main essayer de faire tourner la cassette pour essayer de lire le jeu. Ça ne marchait pas très bien.
Il y a eu les disquettes aussi.
J'avais un lecteur de disquettes, c'était peut-être grand comme ça. C'était une belle époque, mais effectivement, des beaux jeux, et donc un beau créateur, et qui m'a donné envie, c'est lui que je pense qui m'a donné envie de devenir designer de jeux vidéo.
Et par contre, la première grosse série de jeux, en tout cas, que vous côtoyez dans votre premier job, entre guillemets, on va dire vrai job, donc chez les Suédois de DICE, Vous avez travaillé sur la franchise Battlefield de ce studio-là ou pas?
J'étais le lead designer, j'étais en gros le premier designer. Quand on m'a embauché là-bas, on m'a encore rappelé que ce n'était pas un métier. Mais
on vous l'a quand même fait faire.
On l'a quand même fait faire. Et donc, du coup, je voulais vraiment que je prouve que c'était un vrai métier. Et donc, c'est pour ça que je me suis occupé de tout le design du premier Battlefield. J'ai continué un peu sur le deuxième derrière.
C'est une énorme opportunité, en fait, de commencer, de se lancer sur un jeu qui va devenir une franchise.
Ouais, incroyable. Ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, c'était un jeu multijoueur. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de jeux commerciaux qui s'étaient lancés en attendant des jeux multijoueurs. C'était souvent des jeux qui étaient simples joueurs, qui avaient aussi le multijoueur.
Parce qu'Internet n'était pas forcément aussi stable qu'aujourd'hui.
Voilà, donc c'était pas la même chose. On pouvait jouer parfois à 8, là on voulait jouer à 64. Donc voilà, on était vraiment dans des...
C'était novateur, on peut dire.
Voilà, mais à 6 mois avant de sortir le jeu ne marchait pas. Donc il y avait quand même du stress. Voilà. Donc, et on n'y croyait pas. Et même d'ailleurs, les boss de la boîte n'y croyaient pas. Hein.
Pensaient qu'ils allaient prendre un four et...
Ils pensaient qu'ils allaient prendre un four, mais qu'on était payé par Electronic Arts, on s'en sortira, voilà, on fera autre chose à côté.
Et finalement, ils ont révolutionné l'industrie avec un jeu qui, encore aujourd'hui, sort de nouvelles versions. On va faire une petite ellipse, parce que vous avez travaillé, comme beaucoup de grands professionnels français, chez Ubisoft. On imagine que vous avez aussi beaucoup appris chez Ubisoft. Oui. Mais c'est en 2011, si je ne me trompe pas, que là, le rêve de 98, vous l'accomplissez vraiment avec Amplitude Studio. Pourquoi c'était si important pour vous personnellement de créer votre studio et pas de travailler dans un studio?
Alors, tout simplement parce que les jeux que je veux faire ou que je voulais faire à l'époque
sont très niches
et personne ne s'y intéressait à part moi. Voilà, heureusement, j'ai eu quelques amis en chemin qui m'ont rejoint et qui m'ont dit ah non, mais moi j'adore ces jeux-là aussi. Et justement, on n'en trouve pas, donc on est ravis.
Parce que les éditeurs avaient peur que ce soit pas assez commercial, en fait.
Moi, j'avais proposé de faire les jeux d'Amplitude pour quand j'étais chez Ubisoft. Et en fait, je leur disais écoutez, on va faire 200 000 copies, ça va être génial. Et voilà,
ça a réussi pour certains jeux. Hein.
Voilà, mais c'était pas le but d'un Ubisoft et ni d'un Electronic Arts. Les grands éditeurs ne sont pas là pour espérer faire 200 000 copies.
Des niches, voilà. Ils n'ont pas envie.
Donc c'était pas, en tout cas à l'époque, c'était pas la stratégie. Je suis parti.
On accueillait il y a un mois le patron de Voxler qui fait Let's Sing. C'est 200 000 copies vendues chaque année. Ils sont très contents et le jeu est pérenne.
Ouais.
Donc comme quoi, les petites ventes, si c'est niche et que le public répond présent, c'est bien.
Ça, mon jeu, je mets 4 ou 5 ans à le faire. On va en vendre peut-être un peu plus d'un million à chaque fois, mais sinon, autant en faire 200 000 tous les ans, c'est plus sûr.
Et ça fait 15 ans que vous existez avec ce modèle, que vous payez quasiment 200 personnes. On ne va pas minimiser, mais aujourd'hui, dans l'industrie du jeu vidéo, ce que fait en tant qu'entreprise Amplitude Studio, c'est pareil, en fait. Vous êtes une grosse PME, quoi.
Oui, on est un des gros studios français aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on porte beaucoup d'attention sur la partie artistique de nos jeux, donc il y a la partie le game design justement qui n'était pas un métier. On passe beaucoup de temps dessus, donc ça demande de faire et défaire et refaire beaucoup d'éléments du jeu. Faire des erreurs, d'essayer des choses et oui effectivement pour.
D'ailleurs les joueurs aussi quand ils jouent à vos jeux, il y a plusieurs parties avant de s'accaparer les mécaniques puisque c'est très très compliqué. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Par exemple, on prend l'exemple de Endless Space. Mm-hmm. Là j'ai fait le 2 en préparation, mais en fait, on ne peut pas appréhender tout ce qui est possible à faire dans vos jeux avant d'avoir 10 heures de jeu dessus.
Oui, d'ailleurs, beaucoup de nos joueurs, ils jouent des centaines d'heures. Hein, mais c'est l'objectif. L'objectif, c'est que ce sont des jeux où vous pouvez avoir une expérience de 10 heures et qui sera très riche et vous aurez vu quelque chose. Et vous allez avoir un ami qui va faire 10 heures aussi, qui aura vu autre chose. Ouais. Et ce que j'adore, moi, c'est la discussion que vous allez avoir après, vous comparez un petit peu vos approches et de pouvoir jouer de manière très différente.
Deux parties différentes, vous ne vivez pas les mêmes choses. Ouais. Et au niveau de votre rapport avec les éditeurs, il y a quand même eu une entrée de Sega qui est arrivée en 2016, si je ne me trompe pas.
2016, oui.
En 2024, vous reprenez votre indépendance, mais il y a quand même une période de 8 ans avec Sega. À quoi ça correspond? Pourquoi pendant 8 ans il y a Sega? Et surtout, pourquoi vous ressortez de cette relation avec Sega? C'était peut-être prévu du départ, je ne sais pas.
Non, ce n'est pas prévu. En fait... Quand on en revient sur ses premiers amours, on parlait de Civilization, on a été un de mes premiers grands amours de jeux vidéo, et j'ai toujours eu une volonté d'avoir une approche différente sur Civilization. Donc c'est vrai que dans la volonté de création d'Amplitude, c'était aussi de faire un jeu qui puisse offrir quelque chose d'alternatif à Civilization.
Pas un copier-coller.
Donc pas un copier-coller, non, mais une expérience différente. Et c'est vrai que c'est... C'est une question de point de vue aussi. Civilization était un jeu qui était créé par des Américains dans les années 90. C'était une vision du monde après la chute de l'Empire soviétique. Donc il y avait les États-Unis étaient un peu la grande puissance dominante. Et ça se retrouve un petit peu dans le jeu. Le but est de jouer une puissance dominante.
Et de dominer les autres.
Dominer les autres. Et alors que nous, en tant que Français, on est plutôt, on peut être un petit pays très beau, très sympa, qui a une très belle histoire. Et finalement, on peut gagner en ayant une belle histoire, mais sans être aujourd'hui...
Sans envahir les
voisins. Voilà, les voisins. Et donc voilà, donc c'était l'objectif de Humankind, c'était le rêve dès le début d'Amplitude, mais on savait qu'on ne serait pas capable de le faire tout de suite. Donc on a voulu faire quelques jeux avant, apprendre un petit peu, pour pouvoir avoir notre vision.
Humankind qui est sorti, je crois, en 2020.
2021.
Voilà, 2021. Ça c'est le jeu de vos rêves.
Voilà, jeu de mes rêves, et donc dès qu'on savait bien faire des jeux de stratégie comme celui-là, on est approché d'autres éditeurs pour essayer d'être accompagné, pour avoir plus de muscles, et c'est là que Sega nous a proposé de nous racheter.
Parce que là, si on prend l'exemple de Humankind, sans parler de Sega pour l'instant, c'est vrai que quand vous jouez au jeu, vous pouvez décider en fait d'un modèle civilisationnel.
Oui.
Vous pouvez être soit guerrier, soit plutôt confucéen, un peu inspiré des Chinois. Enfin, il y a plein d'options.
Oui.
Il y en a peut-être une quinzaine, je crois. Rien que dans le premier passage, vous passez du néolithique à la première époque. Et à chaque époque que vous traversez, vous faites un vrai choix civilisationnel. Oui. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir une grosse force de frappe militaire pour gagner dans vos jeux, en fait.
Non, le but...
Ce qui est révolutionnaire.
Alors, Civilization a un petit peu de ça aussi. Mais c'est vrai que nous, on l'a renforcé. Et l'objectif est vraiment de pouvoir créer un jeu un peu bac à sable. Si vous voulez être un commerçant, vous pouvez être commerçant, ne jouer que en tant que commerçant. Si vous voulez être effectivement un militaire, vous pouvez l'être. Et rendre tous ces éléments-là intéressants. Et une fois de plus, pour pouvoir avoir des parties qui n'ont rien à voir avec celles de vos amis. C'est votre histoire que vous créez. Et à travers le temps, c'est qu'on peut avoir aussi un passage où on est plus orienté économie, à un moment plus dans le militaire.
Écologie aussi,
Écologie.
Space 2, par exemple.
Voilà, alors dans tous nos jeux, on trouve un peu ces sujets-là. Et aussi, je pense qu'on a un peu plus poussé que Civilization ou d'autres.
Et donc, en 2024, le fait de reprendre totalement votre indépendance par rapport à Sega, ce sera la dernière question avant de nous quitter, mais c'était important pour les années à venir, j'imagine. Ouais. Ça va vous permettre de faire quoi qui n'aurait pas été possible avec cet éditeur légendaire dans la boucle ?
Déjà, à la base, on s'était rejoint pour Humankind.
Pour des questions d'ambition.
D'ambition, et ça correspondait à ce qu'eux voulaient faire à ce moment-là. Donc, ils voulaient se renforcer sur le PC, se renforcer en Europe, et la stratégie. Donc, ils avaient plein de studios de stratégie. En 2024, ce n'était plus du tout la même vision. Ils avaient investi lourdement dans le mobile. Donc, ils ont voulu faire autre chose. Et c'est vrai que nous, on ne se retrouvait plus trop là-dedans. Et je pense qu'on n'avait pas d'autre choix que de leur proposer de se racheter. Alors, c'était marrant parce que ce n'était pas un peu leur objectif. Ils n'avaient pas pensé non plus. Donc, c'était une longue discussion. Ça a pris quand même 2 ans de se mettre d'accord. Ça nous a permis de nous quitter en bon terme, effectivement, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on veut continuer à faire sur PC, sur la stratégie et aussi sur console, parce que grâce à Sega, on a appris aussi à faire la console.
Et du roguelite, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je pense que je vous réinviterai pour parler de ce segment roguelite que vous développez avec notamment Dungeon, Endless Dungeon, et c'était le remake, on va dire, du premier qui est sorti en 2014. Ça méritera une interview à part.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Romain Devaubert de Genlis, donc CEO, fondateur de Amplitude Studio, l'un des studios français indépendants les plus importants. On va parler d'un autre créateur de jeux. Alors, c'est un plus petit en termes de structure, mais il fait du très très beau. Cédric Babouche, c'est le créateur de Dordogne.